Il y a les fondations privées, ça c'est aussi important. Donc on envoie des dossiers, disons pour Voyage jusqu'à l'aube, je crois que j'ai envoyé environ 30 demandes d'argent à des fondations. C'est dommage, je n'ai pas les statistiques sous les yeux, mais c'est assez intéressant de voir que dans le lot, certaines fondations ne répondent jamais, d'autres mettent une année à répondre. Mais dans le lot, il y en a 6 qui ont accepté tout de même de financer le film.
Wir glauben, was wir wissen und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das beängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und das Sterben können. Selber leid, wir vegetieren, wir rasen uns die Lebens. Zwischenzeit. Wir zittern immer noch vor der Vergangenheit. Wir entwickeln uns nicht weiter, weil erwachsen sein uns einzwängt in die Zwänge der Gesellschaft. Nein, so wollen wir nicht sein. Rasen durch die Lebenszeit. Wir verlassen, verpassen die Gelegenheit. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen durch die Lebens.
Dragon Nina, que vous aviez reconnue, elle chantait Wir leben immer noch. Je ne suis pas germanophone. Hein. Je crois que ça veut dire... Ça veut dire quoi ? Nous vivons toujours. Ah ben ça tombe bien. Nous vivons encore toujours. Nous vivons toujours encore. Nous vivons. Bon, c'est l'essentiel. Mais alors, où on en était ? Ah oui, le cinéma, il coûte cher, mais est-ce qu'il rapporte au moins ? Alors, moi qui vous parle, eh ben, j'ai fait quelques petits films, dont le plus long doit durer 5 minutes. Mais en 16, hein, attention. Et puis, ça m'a rapporté des clopinettes. Hein. Je dirais mieux, c'est un luxe exorbitant, je m'endette pour faire du cinéma, voilà. Je suis encore en train de payer mon dernier film de 5 minutes en 16, qui était en plus un ratage, mais je ne me décourage pas, puisque je suis en train d'en finir deux autres, en vidéo et en Super 8, parce que ça coûte moins cher. En définitive, on peut toujours bricoler du cinéma avec des petits moyens. Bien sûr, ça sent un peu la colle, mais tant pis, quoi. Ça sent peut-être aussi un peu la production des femmes. Les petits moyens, les petites productions, ou en termes plus glorieux, la marginalité, l'alternative. J'ai demandé à une femme qui enseigne le cinéma et qui s'appelle Claudine Després si elle ne croyait pas que la petite production était le domaine réservé des femmes au cinéma par une espèce de pression culturelle insidieuse dont les effets se font si souvent sentir et qui voue les femmes aux petites choses ou bien aux choses ignorées. Mais cependant, toutes ces productions alternatives, elles restent un tout petit peu dans un cirque. D'ailleurs, elles ne sont pas vues comme
non,
tes films.
Non, par exemple.
Alors même toi, c'est délibéré, tu ne veux pas qu'on les voit. Mais est-ce que ce n'est pas justement un cercle vicieux ? C'est précisément parce qu'on ne les voit pas, parce que le système ne permet pas qu'on voit ce genre de films, que tu ne les montres pas aussi.
Mais il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça. Parce que c'est vrai que quand on me propose de les montrer ou quand on me demande de les montrer, je suis bien d'accord. Mais en même temps... Il y a un manque de circuit qui n'est ni commercial, ni vraiment artistique, ni vraiment alternatif, qui fait que tu n'as pas tellement le choix, en fin de compte.
Est-ce que tu ne crois pas précisément que comme tout ce qui est petit, tu sais, les petites choses, les petits livres, les petites productions cinématographiques, ouais, ça risque de devenir justement le domaine réservé des femmes ? La bricole au cinéma, est-ce que ça ne va pas être un dommage
je dirais lequel... pas ça, parce qu'il me semble que je connais pas mal de gens qui travaillent comme ça, aussi bien hommes que femmes. Et je crois pas du tout que c'est lié au fait, enfin, c'est lié à la féminité, je crois pas.
Et cependant, des grands cinéastes, des célébrités mondiales, des monstres de l'histoire du cinéma... C'est, je pense, je sais pas moi, Stanley Kubrick, puis maintenant il y a des jeunes monstres comme Wim Wenders, tout ça. C'est quand même toujours des hommes. Il y a guère d'exemples.
Parce que oui, tu peux parler de la peinture aussi, tu peux parler de la littérature. C'est à peu près la même histoire. Alors, je crois que les causes sont à chercher.
Oui, mais on est bien aujourd'hui plus... maintenant. Ouais, ouais, le cinéma, tu prétends qu'il est aussi accessible aux femmes qu'aux hommes, et cependant, je constate que la production 35 mm, c'est l'apanage des hommes.
C'est encore l'apanage des hommes, avec maintenant, depuis quelques années, quelques exceptions.
Quelques exceptions.
Je pense à Duras,
sont...
je pense à Ackerman, je pense à. Oui, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas 36.
Et qui n'accèdent jamais à l'Olympe.
Non, mais bon, est-ce qu'il faut.
Est-ce que
c'est un but
à...
Est-ce que c'est forcément ça qui est bien, je veux dire, si tu considères le travail que tu fais comme, je dirais entre guillemets, une réussite personnelle.
Non, mais c'est toujours la question à se poser. Je le donne pas nécessairement comme un but, mais je constate encore une fois que c'est comme pour la peinture, que c'est comme pour la science, que c'est comme pour un tas de choses, et que effectivement, la partie émergée de l'iceberg, c'est pratiquement jamais les femmes.
Oui, mais j'imagine que pour la plupart, c'est parce qu'elles le voulaient bien, hein, je sais pas. Parce que, oui, je crois que c'est...
Et pourtant, elles veulent faire du cinéma.
Mais celles qui veulent, elles y arrivent, ça, alors je suis certaine, tu vois.
Et tu continues à prétendre qu'elles y arrivent aussi facilement que les hommes.
Écoute...
Si elles y arrivent pas autant, puisqu'on vient de constater que des célébrités de l'envergure de Stanley Kubrick ou Ken Russell, ça n'existait pas au féminin, Alors, si elles n'arrivent pas autant, est-ce que c'est par un défaut de qualité inhérent à leur nature féminine?
Mais moi, je dirais que c'est aussi une ambition qui est ailleurs.
Alors, donc, elles font dans une production féminine. Et cette production féminine... Alors, donc, il y a une production féminine.
Il y a une production féminine, bien sûr, oui, oui.
Alors, féminine, spécifiquement féminine, artistiquement féminine, une culture ouais. des femmes.
Oui, mais ça m'emmerde de dire ça aussi, je pense que... Puisque les conditions... Puisque je trouve que les conditions et les contraintes sont les mêmes, je crois que ce qu'il y a ou qui manque, ou je sais pas, la différence se trouve dans le... Peut-être dans le manque d'envie ou le manque d'habitude d'avoir envie de ça aussi, le manque d'habitude d'avoir envie d'être ambitieux ou je sais pas, c'est certainement lié à ça, effectivement.
Ça fait précisément partie de ces choses dont je pense, et qui sont relatives à l'éducation des femmes, dont je pense qu'elles constituent un handicap spécifique des femmes pour accéder à la production artistique.
Oui, mais pourquoi pas considérer... Enfin, moi, je ne considère pas forcément que c'est un handicap. C'est une autre manière de voir les choses, ou de les faire.
Ou de oui, mais qui les cantonne
dans ton travail. Mais qui les cantonne.
Dans un domaine de, comment dire, de production parallèle, ou sous-production, ou alternative, ou...
Oui, mais... Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, je peux pas dire le contraire, mais... En même temps, c'est un point de vue qui me gêne, parce que ça... Parce que dire ça, ça perpétue ça.
Ah, tout à fait, oui.
Tu vois d'accord. Alors, j'ai pas envie de le dire, même si c'est vrai. J'ai envie de tout simplement pas parler de ça du tout, et de faire des choses, plutôt.
Mais ça pourrait changer la nature des choses que tu fais, si tu voyais les choses sous un autre angle.
Oh, certainement, oui. Oui. Mais comme j'ai jamais pensé ce que je faisais, que j'ai jamais eu un point de vue féminin là-dessus, enfin que j'ai jamais imaginé que mon point de vue était forcément féminin là-dessus, pour moi ça compte pas. Pour moi c'est du travail, point. C'est pas du travail féminin ou du travail en réaction au monde des hommes, c'est du travail. Comment dire, ouais, c'est ça.
Et dit que
C'était Joss, la chanteuse de 12 degrés 5, qui chantait « Crève l'écran ». Alors, pour en revenir à nos histoires de bonnes femmes, Claudine est donc persuadée que les femmes n'ont pas de difficultés spécifiques à faire du cinéma, puis elle n'est pas la seule. Christiane Colla aussi. Elle pense que les femmes ont les mêmes chances que les hommes, c'est-à-dire minces, dans le monde du cinéma. Elle m'a tenu le même discours que Claudine, en surenchérissant.
Mais j'ai l'impression qu'en fait, le fait d'être une femme est parfois presque un atout. On a quand même une certaine... Il y a un reste de galanterie au niveau des... Je sais pas, par exemple, des directeurs, des boîtes de cinéma, de laboratoire, une certaine prévenance. Je sais pas, enfin, c'est difficile à juger. Il faudrait des points de comparaison avec d'autres cinéastes.
Eh bien, je vous prie de m'excuser, mesdames, mais je suis persuadée du contraire. Je ne crois pas que les choses soient facilitées aux femmes dans le domaine du cinéma. Ne serait-ce que pour la raison bien connue, cette vieille raison de l'éducation, et qui n'incite généralement pas les petites filles à démonter des moteurs d'avion ou a fortiori à tenir des caméras. J'ai récemment fait un film avec une classe de 8e, moitié fille, moitié garçon, et quand il s'est agi de désigner le caméraman, pas une fille n'a levé la main. Si c'est du hasard, il est fâcheux. Une femme que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui est une femme maghrébine, très active, fantastique, une femme trépidante, de celles dont on penserait qu'elles ont dû ou voulu faire du cinéma. Je lui ai demandé pourquoi elle n'en avait pas fait, justement, et elle m'a répondu ça. Elle m'a dit « à cause de la cathédrale des appareils ». Bon, c'est un mot... Et puis, c'est vrai que c'est aussi un handicap dépassable, heureusement. Mais il reste quand même des tas de choses. Cette ribambelle de tracasserie, ces gâteries particulières qu'on réserve aux femmes avec une constance indécrottable. Je veux parler, par exemple, du paternalisme, ces attentions touchantes qu'on a pour la cinéaste femme, craignant qu'elle ne s'encouble dans les pieds de la caméra. Tout à fait entre nous, il lui arrive de s'encoubler, il y a tant de fils sur un plateau. Mais alors, il y en a toujours pour penser, je vous l'avais bien dit. Il y a aussi tant d'hommes sur un plateau. Et je ne parle pas d'une époque révolue. Script Girl se décline toujours au féminin. Les caméra women, on les compte sur les doigts, et elles trouvent rarement du boulot. Les femmes qui travaillent dans le son, c'est bien simple, elles n'en trouvent pas. Mais le pire, c'est encore ce que j'appelle le double contrat, et qui n'est pas réservé, hélas, au domaine du cinéma. Une femme doit toujours se réaliser sur deux plans lorsqu'elle travaille, et particulièrement dans le domaine artistique. Le plan communément partagé, c'est-à-dire faire du bon boulot, et le plan spécifique, montrer qu'on peut faire du bon boulot puisqu'on est une femme. Ce n'est pas une analyse originale, et ça a pour résultat, au bout du compte, qu'on est loin d'être plus indulgent pour une femme, mais au contraire, plus exigeant, à mon sens. Ça s'applique à tous les stades. À celui du contenu des films aussi. On reproche aux femmes cinéastes de ne pas faire un cinéma différent des hommes, après tout. Mais mettez-vous à leur place, un cinéma qui changerait l'image des femmes, ou même la pratique signifiante, comme on dit chez les gens bien, ce ne serait pas un cinéma bandant. J'ai bien dit bandant. Le cinéma est presque entièrement constitué pour le regard masculin. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais aussi la plupart des spécialistes de l'analyse filmique. J'en cite un, justement, qui s'appelle Raymond Bellour, et qui dit « Le cinéma américain dépend entièrement d'un système de représentation dans lequel la femme occupe la place centrale dans la mesure seule où cette place est assignée par la logique du désir masculin. » Évidemment, on peut s'en foutre et décider de faire dans le ciné des bandades, ou même ne pas s'en préoccuper du tout, faire du cinéma et puis c'est tout. Mais ce n'est pas simple, car un scénario qui sent le soufre n'attire pas les subventions. Un film non digérable par les schémas ordinaires n'attire pas le spectateur. Et voilà.
Charles Dumont est l'homme qu'il me faut. Qu'il me faut, t'en fais jamais trop. J'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé, pas un seul défaut. T'es l'homme qu'il me faut. T'aimes bien t'amuser, t'aimes bien rigoler, mais tu deviens sérieux quand c'est merveilleux. T'en fais jamais trop. T'es l'homme qu'il me faut. Quand je sors avec toi, je m'accroche à ton bras. Les femmes, elles te voient, toi, tu ne les vois pas. Heureusement pour moi, pour toi. Pour toi, il n'y a que moi. J'aime aussi ta voix, parle, parle-moi de nous, parle-moi de tout. Je me sens si bien. T'en fais jamais trop. Tu es les beaux jours, tu es notre amour, tu es ma lumière, ma vie tout entière. Tu es la tendresse, t'es toutes les caresses, t'es tous les je t'aime, c'est inouï quand même. T'en fais jamais trop. T'es l'homme qu'il me faut. Tu es mon problème, je ne comprends pas, car malgré tout ça,
de raconter un film que j'ai vu. Un film, alors pas du tout le genre de film que pourrait faire cette chanson d'Edith Piaf qu'on vient d'entendre, « T'es l'homme qu'il me faut », mais un film justement qui me paraît non digérable par l'idéologie dominante et donc voué à l'insuccès. Cependant, ce film a obtenu du succès auprès des femmes. Primé au Festival de Sceaux, qui est un festival de films de femmes qui a lieu en France chaque année, et apprécié au Festival de Berlin. C'est un film d'une Hollandaise nommée Marlène Goris. Ce film s'appelle « Le silence autour de Christine M. ». Voici l'histoire de ce film. Une sociologue, heureuse en ménage, doit tout à coup s'occuper du cas de trois femmes qui ont assassiné un homme dans un magasin de vêtements. Cet homme était le patron de la boutique où elles faisaient toutes trois leurs achats. Un jour, alors que l'une d'elles, Christine M., tentait de voler un vêtement, le patron l'appréhende, les deux autres femmes dans le magasin qui ne connaissaient absolument pas Christine M. viennent lui prêter main forte et toutes trois finissent par battre à mort, à coups de cintre et de tout ce qui leur tombe sous la main, le patron de la boutique. Elles sont arrêtées, naturellement, et la sociologue du début de l'histoire doit servir d'experte lors du jugement. Cette sociologue mène l'enquête, intriguée, auprès de ces trois femmes qui ont commis un crime bien singulier. Au début, elle n'y comprend rien. Elle s'énerve. Les femmes se livrent peu et de manière sibylline. Et puis, peu à peu, à travers leur discours, elle parvient à comprendre et à partager cette stupéfiante réalité. Cette mise à mort aux allures rituelles, c'est la mort de la loi du père, la loi des hommes. Ces trois femmes, ménagères ordinaires, muettes et endurantes, ont brusquement, tacitement et d'un commun accord, décidé d'en finir avec la loi. La scène finale du film se déroule lors du procès. On y voit les trois femmes, et surtout Christine M., au banc des accusés. Dans le public, il y a d'autres femmes, de celles qui fréquentaient aussi le magasin. Tout à coup, alors qu'on interroge Christine M., qui n'a pas dit un mot de toute cette histoire, Christine M. éclate de rire, d'un rire hérétique, par excellence, le rire même de l'hérésie, et ce rire se communique à la sociologue, aux deux autres accusés, aux femmes dans le public. Tout le monde rit dans cette salle d'audience, sauf les hommes. C'est tout. La sociologue, dont les rapports avec son mari se sont dégradés au cours de l'enquête, est en rupture de ménage et même en rupture de banc. Elle sort du tribunal en agitant son sac et secouant ses puces, comme si sa vie allait ou avait irrémédiablement changé. Ce film n'est pas une super production hollywoodienne. Réalisé dans un format commercial, cependant, sa facture est tout de même un peu artisanale, mais il est bien fait. C'est l'archétype du film voué à une carrière confidentielle. Il a remporté du succès auprès des femmes. Je vais faire hurler toutes les amies qui m'écoutent, mais comment se fait-il que ce film ne m'ait pas plu ? Pour en revenir à nos moutons, il y a aussi ces femmes dont j'ai parlé tout au début, ces femmes qui ont envie de faire du cinéma, qui s'initient tout juste à la technique. Et puis, il y en a une qui s'appelle Marie-Ange, qui est en train d'apprendre la technique Super 8, qui vient de commencer. Elle vient de réaliser un tournage en Super 8. Et je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire avec le cinéma. Qu'est-ce qui vous prend, madame, de vouloir faire du cinéma? Qu'est-ce que vous voulez en faire du cinéma?
Ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as l'intention de continuer. Puisque là, tu t'inities au cinéma, j'aimerais savoir si tu voudrais continuer.
Ah oui, j'aimerais continuer.
Et dans quel sens? Tu voudrais faire quoi?
Alors, moi, c'est très simple. La technique m'intéresse un peu. Je veux savoir comment les choses fonctionnent. Le pourquoi, je sais que c'est déjà beaucoup poussé. Alors, je me contenterai de savoir comment ça fonctionne. Mais j'aimerais mieux réaliser qu'être derrière la caméra. Être derrière la caméra, ça me plaît beaucoup. Mais ça, être derrière la
quand
caméra.
Quand tu filmes, t'es derrière, c'était devant.
Oui. Être derrière la caméra m'intéresse beaucoup. Seulement, ça va demander de ma part un gros effort pour apprendre la technique, pour bien dominer, pour que ce soit parfait comme je voudrais que ce soit si c'était quelqu'un d'autre qui filmait. Donc, ça ne m'intéresse pas d'être devant la caméra, mais la réalisation m'intéresse. La mise en scène, la réalisation.
Oui, mais alors, donc, qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir?
Ah, qu'est-ce que je compte faire là-dessus? Ah, ben, pour l'instant, je vais simplement continuer à apprendre un peu la technique, vu que j'en connais très peu. J'aimerais quand même essayer de retenir un maximum. Et puis, par ailleurs, j'aimerais trouver, écrire ou inventer ou des scénarios proposés, puis essayer de réaliser.
Alors, mais dans quel format? En Super 8?
Je parle du présent. Pour l'instant, je vais essayer d'apprendre là-dessus, mais je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Si je suis contente du travail que je fais, je pense que je ne vais pas m'arrêter là. Et si je ne suis pas contente du travail que je fais, il y aura deux options. Soit j'apprends à le faire mieux, soit je m'adonne.
Donc, idéalement, en ce moment, tu es en train d'apprendre, mais idéalement, tu voudrais devenir cinéaste, en gros, puisque ce que tu dis, je ne veux pas m'arrêter là. Donc, si tu ne t'arrêtes pas au Super 8, c'est le 16. Et puis le 16 mm, après il y a le 35, tu voudrais faire une carrière en somme.
Mais oui, je vais être la plus connue des femmes.
Alors Maria.
Mais oui, et moi aussi. En voilà une qui se dit comme moi que jamais rien dans la vie n'est trop bon pour soi. Ceci pour finir sur une note optimiste. Mais avant, j'ai posé à la femme la plus susceptible de me répondre, la dernière des questions que je me proposais de poser aux femmes à propos de faire du cinéma, la question nulle, pourquoi ne faites-vous pas de cinéma? Je l'ai posée à Selma Zmerli. Selma Zmerli, c'est cette femme dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure en termes enthousiastes. C'est cette femme maghrébine que j'ai rencontrée il y a peu dans un bistrot. Dans ce bistrot, elle avait un comportement extraordinaire. Bref, elle faisait un sacré cinéma. Selma, comme je vous l'ai dit, a renoncé à faire du cinéma à cause, selon son mot, de la cathédrale des appareils. Et en lieu et place, elle a écrit des poèmes.
Et ses pensées, oh, ça me fait chier ces appareils. Ouh là là, ces pensées qui s'envolent. Oh! Ces désirs fous, tabous, tabous, tabous. Je deviens borne, le msab, de nouveau me hante, m'habite, m'étouffe. Je n'ai qu'un œil. Lequel? Je ne sais plus. Vous comprenez, j'étais temps. Étant été voilée, vous comprenez que j'en étais asexuée. Pire, et à l'époque, je pensais avancer alors que je trébuchais. Et j'avais un purnous, et je pensais que c'était mon passé. Décidément, c'était beaucoup trop près. J'avais un purnous, et je prétendais que c'était mon passé. Il avait été tissé dans un tissu anglais, il y a un siècle, pour la féodalité. Mais à l'époque, j'étais rivée. Mais vous, enfant du Mzab, devenu espion, ce qui donne le passage aux initiés, nous avons même vous avez des quartiers réservés. Hommes, femmes, des enfants guetteurs jusqu'à la puberté. Cette puberté, voluptuosité monstrueuse de nos sociétés. Vous avez le chat et la souris, c'est de là que je les ai même rencontrés, paisibles et coexistants. Mais ne riez pas, cela se passait naturellement quelque part en Verbierie, et pas en Calvini. Quant à mon autre sœur, enfin, pas sexuelle peut-être, elle divaguait de voir le Msab analyser. Que nous resterait-il ? Les pleurs de l'ennui ? Ou bien les joies explosives de leurs envies ? Alors un œil qui regarde, peut-être pas le mauvais, musique.
Voilà, notre émission Ciné Bavardage sur le cinéma et les femmes se termine sur Radio Pleine Lune. Maintenant, quelques nouvelles. Jeudi 12 janvier, au Palais de Justice à Genève, procès de trois femmes qui sont inculpées d'exploitation de dancing et vente de boissons alcoolisées sans autorisation dans la cave du CG, maison occupée de la rue du Conseil Général. Venez tous et toutes les soutenir et manifester aussi contre la fermeture de cette cave qui était un des réels lieux autogérés de la culture alternative à Genève. À bas les centres, vive les squats! Le groupe Femmes Féminisme Recherche propose une rencontre sur le thème Femmes et Travail en psychologie avec Eva Edelstein. 22 avenue du Mail, salle 212 à 20h30, mardi 17 janvier. Au Centre Femmes à Genève, 5 boulevard Saint-Georges, jeudi 12 janvier, Colette Martin présente son livre La Transforme ou la Bible à l'envers, entendez en A-N vers V-E-R-T. Colette Martin est féministe, théologienne et grand-mère. Hélène de Beauvoir, peintre et féministe, expose à la Galerie Callard, 4 rue Prévost-Martin, du 12 janvier au 15 février. Le 13 janvier à la Galerie, à 20h30, rencontre avec Hélène de Beauvoir. Vous écoutez Radio Pleine Lune, radio de femmes sur Radio Zone, 101,4 MHz. Radio Pleine Lune émet tous les mercredis soirs, dès 19h en direct. L'émission que vous allez entendre est une retransmission du programme du mercredi 11 janvier. Cette émission est retransmise en différé et en continu jusqu'à jeudi soir à 19h, heure à laquelle reprennent les programmes en direct de Radio Zone. Pendant les émissions en direct, tous les soirs dès 19h, vous pouvez téléphoner au 20 01 93 023 depuis la Suisse.